Avant le salut du Saint-Sacrement de ce soir, qui est un acte d'adoration, de dévotion à Jésus hostie, je voudrais vous parler de la liturgie. De la liturgie qui est une des plus grandes sources, une des plus grandes nourritures de notre vie spirituelle. Vous êtes en train d'élaborer des résolutions pour entretenir le feu de cette vie spirituelle qui a été bien sûr nourrie, enflammée par la retraite qui n'est pas terminée. Et vous voulez entretenir cela, c'est normal, vous y avez pris goût et vous voulez garder cette joie profonde qui s'est répandue en vous au fur et à mesure des grâces reçues, des lumières obtenues dans cette retraite. Eh bien, la liturgie est certainement l'un des moyens privilégiés pour régulièrement retrouver ce feu, cette ferveur, qui n'est pas, je l'avais dit l'autre jour, sur de l'ordre sensible par rapport à la prière, hein, j'avais parlé et l'oraison. C'est bien plus que cela. C'est notre âme qui goûte intérieurement son Dieu et là, dans la liturgie, dans un cadre très précis qui est la vie de l'Église. Ne l'oublions pas, même si une retraite nous recentre un petit peu sur nous-mêmes, c'est un salut vers le salut vers lequel vous dirigez, pour lequel vous travaillez avec toute votre ardeur, est un salut qui ne s'obtiendra que dans l'Église, que par l'Église et que dans l'Église. Par l'Église parce que ce sont les moyens que Jésus a légués à son Église qui nous permettent d'obtenir le salut, que ce soit les sacrements, que ce soit donc le sacerdoce qui donne les sacrements. Et ce salut donc s'obtient dans l'Église et dans la vie de l'Église. Nous sommes membres d'une société depuis notre baptême qui est l'Église. Et c'est donc en son sein que nous nous nourrissons, nous grandissons et nous vivons les uns avec les autres. Il y a cette dimension sociale dans la vie de l'Église qui n'est pas à oublier. Inversement, le protestantisme a individualisé la religion. Il a fait de chacun un récepteur de Dieu, soi-disant, avec comme règle première, sa conscience, qui serait la lumière intérieure qui lui permettrait, éclairée soi-disant par Dieu, de se régir soi-même. Mais il n'y a pas du tout de dimension sociale, il n'y a pas d'église pour Luther. Alors au contraire, dans la vraie religion, nous voyons que Jésus, en mourant sur la croix, a scellé le trésor des grâces qui seraient nécessaires au salut de tous les êtres. Et il a, par sa mort, achevé, rempli le trésor parfait, infini, de ses mérites qui nous permettront, et ce jusqu'à la fin du monde, de nous sauver. Mais même si Jésus mourait, il n'a pas voulu que son sacerdoce meure, c'est-à-dire cette médiation entre Dieu le Père et les hommes qui étaient déchus par le péché, qui ne pouvaient plus rien faire pour eux-mêmes, d'eux-mêmes, par eux-mêmes. Et seul le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ a pu renouer entre le ciel et les hommes. Eh bien, notre Seigneur qui meurt, qui va ressusciter, mais qui va aussi quitter la terre par son ascension, ne veut pas que cette action qu'il a menée et qui est éternel en lui, dès lors qu'il est homme, dès sa conception, notre Seigneur est prêtre, parce qu'il est uni à la nature humaine est unie à la nature divine, dans la personne du Verbe, eh bien nous avons cette volonté explicite de notre Seigneur de prolonger son sacerdoce, de prolonger cette action qui va répandre les richesses acquises par sa mort. D'où ce don qu'il fait de son sacerdoce à des hommes, ou plus exactement, cette participation de son sacerdoce à des hommes. Et d'où le rôle qu'a l'Église qui reçoit cette mission de distribuer par le sacerdoce les richesses de la croix. Et cela va se faire sans interruption. Pie XII, dans l'encyclique Mediator Dei, qu'il a écrite en 1947, dit ceci: « Le divin rédempteur voulut ensuite que la vie sacerdotale qu'il avait commencée dans son corps mortel, par ses prières et son sacrifice, fut continuée sans interruption au cours des siècles dans son corps mystique qui est l'Église. Il institua donc un sacerdoce visible pour offrir en tout lieu l'oblation pure. L'Église, fidèle au mandat reçu de son fondateur, continue donc la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, principalement par la Sainte Liturgie. C'est l'Église qui a reçu la liturgie, ce n'est pas l'Église qui a inventé la liturgie. Et donc, l'Église doit être fidèle à ce qu'elle a reçu, et elle ne peut pas inventer ce qu'elle doit donner aux fidèles. Et donc, elle prolonge l'action du Christ, d'une part à l'autel, dans le Saint-Sacrifice de la Messe, qui est l'action liturgique la plus sainte et la plus sacrée, la plus riche, bien sûr, par les sacrements, qui en sont comme les canaux, qui ont leur source dans le sacrifice de la croix et donc dans la messe, et qui viennent prolonger sur des points précis de notre vie ce salut donné par la croix, quels que soient les sacrements, tous prennent leur source dans l'Eucharistie. Et il est très beau de voir que tous soit préparent à l'Eucharistie, sont des richesses qui découlent de l'Eucharistie. Le pardon de notre Seigneur dans le sacrement de pénitence découle bien du sacrifice de la croix. Donc, de l'Eucharistie pour ce qui est du sacrifice eucharistique. Et en même temps, le sacrement de pénitence prépare à l'Eucharistie. Libère l'âme qui était prisonnière du péché, peut-être grave, et lui permet d'accéder à l'Eucharistie. Etc. Je ne vais pas m'étendre sur l'étude des sacrements. Et puis enfin, la prière publique, je vous en ai parlé à l'occasion de l'oraison de la prière, le bréviaire, l'office divin récité. Voilà la prière publique de l'Église, voilà la liturgie. Liturgie, c'est le culte public, nous revenons à ce culte de la vertu de religion. Pie XII encore, le devoir fondamental de l'homme est certainement celui d'orienter sa personne et sa vie. Comprenons bien pourquoi il y a un culte liturgique et pourquoi nous ne sommes pas chargés simplement de sauver notre âme, chacun pour soi, et avec une prière personnelle, directe avec Dieu, comme on veut, quand on veut. Pourquoi il y a cette nécessaire participation au culte public ? Puisque quand vous avez la messe dominicale d'obligation, eh bien, c'est pas vous qui choisissez le jour du dimanche, c'est pas vous qui choisissez votre façon de prier. C'est une messe qui est définie, qui est canonisée, c'est-à-dire réglée, et on n'y fait pas ce qu'on veut. Vous voyez, entre parenthèses, d'ailleurs, un principe de la nouvelle messe qui bafoue cela. La messe ne peut pas être quelque chose de un lieu de créativité. C'est la liturgie, c'est Dieu qui a montré à son peuple comment il fallait l'honorer. Regardez dans l'Ancien Testament à Moïse le don de la loi et des lois liturgiques. C'est d'un détail absolument effarant. Il y a la longueur des tuniques des prêtres, tous les matériaux sont précisés, leur dimension, on voit bien que la liturgie n'est pas une affaire humaine, même s'il peut y avoir une dimension humaine, bien entendu, il faut pas l'exclure. Mais l'essentiel est donné par Dieu. Et donc la messe, encore plus, ne peut pas être modifiée par les hommes. Fin de parenthèse. Alors donc, ce devoir des individus existe, mais il y a un devoir collectif. Puisque nous sommes membres d'une société, cette société, elle aussi, a un devoir de rendre un culte à Dieu. Et c'est ça qui justifie. Nous ne sommes pas à moitié membres d'une société et à moitié individus. Nous sommes des personnes, mais qui sommes citoyens de l'Église. On peut le dire comme cela. Mais cette citoyenneté, même si le mot est pas beau, nous sommes fidèles, ce sera plus joli, eh bien ne peut pas se dispenser d'un culte en tant que membre de la société. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dans un autre ordre d'idée, mais pour vous faire comprendre la même chose, il est normal que les sociétés civiles rendent un culte au vrai Dieu. C'est normal. En tant que société, toute société est voulue par Dieu, toute société naturelle, puisqu'elle est naturelle. Or, la société civile est naturelle, donc elle est voulue par Dieu. Il est normal que les hommes soient assemblés sous la direction d'un chef qui constitue la société. Et il est normal que cette société ainsi constituée, naturelle, participe au culte de Dieu, sous une forme ou sous une autre, mais qui est une véritable participation religieuse du corps social en tant que tel. C'est le cas de la famille, société naturelle. C'est le cas de la cité, c'est le cas de l'État. Et le culte, donc, non seulement donc c'est un devoir en tant qu'individu, devoir en tant que membre d'une société, mais ce culte est indiqué par Dieu. Il est donné par Dieu, et notre Seigneur Jésus-Christ a donné à son Église le culte définitif, celui du Nouveau Testament. Tous les détails, pour le coup, ne sont pas donnés. C'est l'Église qui a reçu la possibilité de détailler un certain nombre de choses, mais pour tout ce qui est des sources de grâce les plus importantes, c'est-à-dire les sacrements et la messe, bien entendu, c'est notre Seigneur qui a dit ce qu'il fallait faire. Il peut y avoir enrichissement dans l'histoire de l'Église, c'est un fait qui n'est pas contestable et qui n'est pas à contester, mais ça ne change pas que l'essentiel ne peut pas être modifié. La matière d'un sacrement est donnée par notre Seigneur et ne peut pas être changée, même si on n'a pas de cette matière, même si on se dit que ça nous faut, que dans tel pays, ce serait peut-être plus compréhensible une autre matière. Ça n'est pas possible. Notre Seigneur savait très bien que dans certains pays, il n'y aurait pas telle matière. Alors, est-ce qu'il a donné la libre possibilité de choisir n'importe quelle matière? Bien sûr que non. Il a attaché à chaque signe sensible un sens spirituel et une possibilité de donner la grâce. C'est le propre d'un sacrement que de signifier une réalité surnaturelle, mais de donner réellement la grâce qu'il signifie. Si on change le signe, ça ne veut plus dire ce que voulait dire notre Seigneur. Qu'est-ce qui nous donne le droit de changer brusquement le signe? Je pense par exemple aux huiles dans les sacrements qui sont maintenant, dans beaucoup de cas, n'importe quelle huile. Il y a des huiles qui ne représentent absolument pas le sens profond de l'huile d'olive, jardin des oliviers, etc. etc. Je ne vais pas m'étendre. Bref. Nous sommes donc appelés à participer à la vie liturgique et en tant que membres du corps mystique de qu'est l'Église, du corps mystique du Christ. Et ce culte, cette participation de notre part à la liturgie, est à la fois extérieure et intérieure. N'imaginons pas une religion faite simplement de gestes, de prières vocales, d'actions purement extérieures que l'on remplirait, que l'on accomplirait, et puis après, ça y est, on a fait, donc c'est bon. Non, gardons toujours à l'esprit ce nécessaire don de nous-mêmes dans tout acte de culte public et bien sûr privé. Quand vous priez en privé, vous savez très bien. Une prière qui a été dite du bout des lèvres ne vous satisfait pas parce que vous n'avez absolument pas pensé à ce que vous disiez. Et vous savez très bien que votre prière, elle est un peu vaine parce que vous n'avez pas donné votre cœur dans cette prière. Alors il en est de même dans la participation à la vie liturgique. On peut être présent à la messe, derrière un pilier, et attendre que ça se passe. Est-ce qu'on a assisté à la messe ? Culte intérieur, culte extérieur. Extérieur parce que nous sommes un composé de corps et d'âme. Et donc, on a besoin du sensible. Dieu nous connaît. Il a toujours fait sa liturgie en fonction d'une nature humaine. On n'est pas des anges, donc on ne va pas avoir une liturgie purement intuitive, intellectuelle. Il nous faut des choses sensibles, qui parlent à tous nos sens, y compris l'odorat, la vue, l'ouïe. Vous retrouvez donc les encens, le chant, les vêtements liturgiques, les couleurs liturgiques. La couleur liturgique, c'est facile de faire comprendre dès l'enfance la différence entre un violet, un noir, ou un doré, un blanc, etc. Ces couleurs parlent, les décorations d'église, etc. Les gestes dans la liturgie, il y a des mouvements. On se dit, mais il pourrait faire plus court, il pourrait faire moins de gestes, moins de signes de croix. Mais non, mais il y a un sens à tout cela. Et cette lenteur liturgique, on apprend ça au séminaire, nous, ici en l'occurrence pour moi, c'est vrai qu'on apprend à vivre de façon sacrée la liturgie, bien sûr pour un séminariste, qui est importante parce que c'est vrai qu'on ne marche pas de la même façon dans un chœur quand on est servant ou évidemment prêtre. Vous voyez, ça paraît idiot, ça paraît un détail. On n'a pas les mains comme on a les mains habituellement. On a les mains jointes, sauf quand elles sont occupées. Tout ça a disparu dans la messe moderne. Vous regardez, ils savent pas quoi faire de leurs mains. Et puis alors ils bricolent devant tout le monde, ce qui fait que faut pas faire de bêtises. Et nous, on n'a pas à bricoler. Tous nos gestes sont précis. Nous savons parfaitement ce que nous devons faire à chaque moment de la messe. Et nous n'inventons rien, parce que la liturgie ne nous appartient pas. Elle appartient à l'Église, et l'Église l'a reçue pour l'essentiel de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, participation aussi intérieure nécessaire, parce que, et bien sûr, sans le don de nous-mêmes, sans le don de notre cœur à cette offrande liturgique, à cette union au sacrifice de notre Seigneur, ou à la prière de l'Église, si nous participons, par exemple, au chant des complis, le soir, ça fait partie de l'office de l'Église, la prière officielle de l'Église à laquelle vous participez tous les soirs, là. Les prêtres qui sont tenus chantent la prière de l'Église, et c'est un devoir pour eux, pour vous, vous vous y associez, mais vous voyez comme c'est beau. Ce chant d'une prière de l'Église tout entière, d'une portion de l'Église qui s'associe à la grande prière du Christ par ses prêtres, par ses ministres. Alors nous devons donc avoir cette double participation extérieure-intérieure, et la liturgie devient très naturellement une source de vie intérieure. Cette vie intérieure qui est, rappelons-le, même si on l'a déjà vu sous bien des aspects, à la fois une action divine et une action humaine, puisque nous participons dans la vie de la grâce à l'action du Saint-Esprit en nous. Et nous le savons bien, c'est ce que vous avez vu durant toute cette retraite, c'est que notre vie se résume à un double mouvement, un éloignement du péché et on se rapproche de Dieu. Eh bien, nous pourrions prendre cette phrase de notre Seigneur dans Saint Luc, chapitre 9, verset 23, comme modèle de vie liturgique pour, ce que je commenterai tout à l'heure, l'année liturgique. Comment l'année liturgique peut-elle nous nourrir notre vie intérieure, notre vie spirituelle? Cette phrase de notre Seigneur, Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix quotidiennement et qu'il me suive. » Alors, il n'y a pas le mot liturgie dans cette phrase de notre Seigneur, et pourtant, c'est un résumé de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne. Avec, on peut le redécouper ainsi, 3 degrés. Premier degré, poursuivre Jésus donc, se renoncer soi-même. Nous voyons bien que l'abnégation, le renoncement, est la condition qui nous permettra de sortir de nous-mêmes et donc d'aller à notre Seigneur Jésus-Christ. Or, notre vie spirituelle, c'est d'aller à notre Seigneur Jésus-Christ, puisque seul notre Seigneur Jésus-Christ peut nous mener au ciel. Deuxième degré, c'est le portement de croix, qu'il porte sa croix quotidiennement. Ce qui va supposer la pratique des vertus. Nous ne pouvons pas prétendre porter notre croix, dire « je porte ma croix » quotidiennement, si, à côté de cela, nous n'avons pas un travail de vertu. Je n'ai pas dit que si à côté de cela nous étions déjà des saints, ça n'est pas du tout cela. La vie chrétienne est une école de sainteté, mais elle ne présuppose pas la sainteté pour entrer dans cette vie chrétienne. Donc c'est un apprentissage avec ses échecs, avec ses difficultés. Mais si nous voulons suivre notre Seigneur, et si nous voulons pouvoir dire honnêtement « je porte ma croix », même si c'est pas toujours extraordinaire, eh bien c'est que nous avons un travail des vertus réel. Et le troisième degré, alors, c'est de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il me suive, et nous pouvons voir une véritable union à Dieu. Car lorsque nous suivons Jésus-Christ, nous sommes unis à lui. Alors certains auteurs spirituels ont vu dans cette phrase que je vous commente à leur suite, les trois voies de la vie spirituelle. Ce qu'on appelle la voie purgative, c'est-à-dire la voie qui nous purifie, on se renonce à soi-même. C'est vrai que se quitter soi-même, c'est l'ascèse, c'est la dimension qui nous peine, qui nous fait peur, qui nous gêne, parce que ça contrarie notre nature. Mais c'est indispensable, nous le savons bien, une retraite nous le fait comprendre intimement. Le deuxième, porter sa croix, imiter Jésus-Christ dans le travail des vertus, c'est ce qu'on appelle la voie illuminative, c'est-à-dire que nous sommes dans la lumière du Christ, dans le travail, notre âme travaille avec Jésus-Christ dans sa grâce. Et enfin, suivre Jésus-Christ, voie unitive, qui est comme le sommet de la vie spirituelle et qui nous permettra d'aller au ciel. Eh bien, ces trois voies, on peut dire que nous les retrouvons d'une certaine façon dans l'année liturgique. Et si nous aimons à vivre de Jésus-Christ, aimons à vivre du temps liturgique. Ce temps liturgique, vous le connaissez, la première partie, c'est l'Avent. L'année liturgique commence avec l'Avent, qui nous prépare au grand mystère de Noël. Eh bien, on peut dire que l'Avent, c'est une voie purgative. Vous avez cela avec cette préparation de la venue de notre Seigneur. Mais ce n'est pas une préparation attentiste, hein, c'est une préparation active qui est à la fois de purification et de pénitence. Et le grand modèle que nous avons pendant l'Avent, c'est Saint Jean-Baptiste. Revoyez les textes des évangiles, des dimanches de l'Avent. Et à quoi nous invite l'Église ? Elle nous invite à méditer au triple avènement de notre Seigneur. Souvenez-vous, il y a cet avènement de l'incarnation, c'est celui qui nous marque le plus, la fête de Noël, mais il y a aussi son apparition au jugement dernier. À telle preuve que le premier dimanche de l'Avent a pour évangile le même épisode que le dernier dimanche d'après la Pentecôte. Donc, vous avez deux dimanches de suite, le 24e après la Pentecôte et le premier dimanche de l'Avent, qui vous parle de quoi ? Du jugement dernier. Quel est le rapport avec Noël ? Ben, le rapport de la venue de notre Seigneur. Et puis le troisième avènement, c'est sa venue, bien sûr, on pourrait dire, pas la plus importante en soi, mais la plus importante quant à nous, c'est la venue de notre Seigneur dans notre âme. Et ça doit se préparer activement à chaque temps de l'Avent. Et là, nous voyons que l'Église est maîtresse de vie spirituelle. Elle nous éduque dans notre vie spirituelle. Elle nous apprend dans le temps, dans les semaines qui s'écoulent, à transformer nos âmes, à écouter ces grands mystères de la rédemption, qui sont préparés bien sûr par l'incarnation d'abord, et puis le grand mystère de la rédemption qui sera le deuxième grand temps de la liturgie qui sera Pâques, le deuxième grand sommet. Eh bien, l'Église nous apprend à la suivre dans ce renouvellement des mystères de la rédemption, au sens large, pour nous transformer dans le présent. N'oublions pas qu'à chaque avant, nous ne devons pas nous dire, tiens, nous allons préparer Noël. J'exclus même le côté festif, etc., tout ce qui est à côté, mais c'est pas simplement nous allons préparer Noël et puis bon, j'aime bien cette période, il fait moins chaud, etc. C'est bien plus profond, je vais renouveler mon âme, je vais recevoir notre Seigneur qui va comme s'incarner en moi. Et le mot n'est pas trop fort. Le mot n'est pas trop fort. Parce que c'est notre Seigneur qui attend cette incarnation. Alors ce n'est pas du même ordre que la vraie incarnation. Mais c'est une incarnation puisqu'il veut faire de nous d'autres Christ. Donc ça n'est pas faux. Il est venu chez les siens et certains ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. Le Verbe s'est fait chair, mais il veut aussi se faire chair en nous. Il veut être, c'est la phrase de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est saint Paul qui l'a dit, il y a une véritable incarnation, analogiquement parlant, mais véritable quand même. Le temps de Noël, le temps de l'Avent est aussi un temps de pénitence, temps de purification, oui, mais aussi temps de pénitence. Temps de pénitence qui nous prépare aussi à cette venue ultime de notre Seigneur. Autrement dit, pour faire plus bref, à notre jugement particulier et au jugement universel, mais au jugement général. Mais c'est surtout avec cette dimension de notre fin. Voyez, donc incarnation oui, mais aussi fin des temps et plus concrètement pour nous, fin de notre vie. Se préparer par la pénitence à cela. Et c'est ça le premier temps de l'année liturgique. Voyez l'importance de cette voie purificatrice pour reprendre le thème de tout à l'heure. Le temps de Noël qui est bien sûr le temps de joie du Verbe qui s'est fait chair, de ce salut qui est donné enfin aux hommes et qui vont pouvoir retrouver l'espérance. Paix aux hommes de bonne volonté, chantent les anges en annonçant aux bergers la naissance de notre Seigneur. Cette paix, ça n'est pas une paix des hommes, c'est une paix divine qui vient de cette réconciliation désormais envisageable, possible, entre Dieu et les hommes. Et nous avons effectivement de quoi nous réjouir. Mais en même temps, l'Église nous appelle à suivre les exemples de Jésus, vie intérieure, exemple d'humilité, d'obéissance, de pauvreté. Toutes ces vertus que nous contemplons dans le mystère de Noël. C'est la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le temps de Noël, vous savez, se va jusqu'à strictement jusqu'à la Septuagésime, au sens large, donc même s'il y a le temps de l'Épiphanie juste après, mais c'est tout ce temps en blanc qui nous montre la vie cachée de notre Seigneur, qui inclut jusqu'aux épisodes du baptême de notre Seigneur. Donc toute la vie cachée avant la vie publique. Voilà ce temps, et c'est un temps où nous allons imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une vie illuminative, une voie, c'est la voie illuminative. Et puis après, nous retournons dans une voie purgative. Non pas que nous fassions marche arrière, mais nous nous purifions désormais encore plus profondément parce que nous allons nous préparer cette fois à Pâques. Ça va être le temps de la Septuagésime et du Carême, et de la Passion, incluant la Passion. Et nous allons nous préparer à la vie de ressuscité. Et la vie de ressuscité, c'est véritablement la vie unitive, parce qu'on ne pourra pas avoir un degré au-dessus que d'union à Dieu que ce degré d'assimilation à Jésus-Christ ressuscité. Et c'est tous les textes du temps pascal qu'il faudrait évoquer ce soir. Alors la chute et le plan de la rédemption bien nous rappellent les blessures du péché. Et dans le bréviaire, nous avons, au début de la Septuagésime, la Genèse. Nous reprenons la Bible, nous avons dans les Fils des Matines, hein, des extraits de la Bible, eh bien, nous repartons sur la Genèse, le péché originel, pour bien tout reprendre. Et les textes qui sont magnifiques du carême, enfin depuis la Septuagésime jusqu'à la Semaine Sainte, eh bien, nous nous indique ce chemin qui est à reprendre parce qu'il y a eu le péché, parce qu'il y a eu cette brisure du péché originel. Nous allons être éduqués pour être repris en main, sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ, avec un travail de longue haleine. C'est pour ça qu'il y a ces 40 jours, parce que nous étions loin de Dieu. Et l'Église nous propose les moyens suivants. D'abord, le travail ou l'accomplissement fidèle des devoirs d'État pour l'amour de Dieu. Et on commence le dimanche de Septuagésime par cette parabole du travail à la vigne. Souvenez-vous, le maître qui envoie ses ouvriers à la vigne à différentes heures. Et il donnera sa récompense à chacun d'eux le soir. Eh bien, c'est une leçon. Nous devons d'abord, si nous voulons nous restaurer en Dieu, accomplir fidèlement le travail de notre devoir d'État pour Dieu. Vous voyez, c'est une préparation lointaine au mystère de la Passion. Mais si nous voulons obtenir ce ciel, nous devons travailler à la vigne du Seigneur. On pourrait dire, il ne nous en est pas dit plus. Ça n'est pas suffisant. Nous avancerons. Deuxième point, justement. Il faudra faire cela avec une lutte efficace contre les passions mauvaises. Et c'est saint Paul qui nous donne l'exemple. C'est toujours dans le dimanche de la Septuagésime, cette fois c'est l'Épître. Ce sont des athlètes qui courent et qui combattent pour obtenir une couronne. Voilà, cet exemple que je vous avais cité, déjà en ayant cité saint Paul. Et nous aurons donc, nous rentrons là non plus dans la vigne, mais dans une course. Vous voyez, l'Église nous apprend à nous repenser nos fins dernières. Nous sommes faits pour gagner le ciel, mais cela ne se fera qu'en travaillant à la vigne et en travaillant contre nous, contre nos passions mauvaises en tout cas. Et enfin, l'acceptation volontaire de la souffrance et des épreuves avec une prière humble. Et ce sont les autres textes de la messe qui sont une supplication, de la messe de la Septuagésime, hein, une supplication, un appel confiant en même temps et humble dans les épreuves, dans les difficultés. Voilà le point de départ. Si vous voulez, je ne vais pas détailler tout le carême, rassurez-vous, mais il y a une messe par jour et n'hésitez pas à les lire, même si vous n'allez pas à la messe tous les jours pendant le carême, et ce sont des magnifiques traités de vie spirituelle. Avec ce parallèle qu'il y a entre l'Épître et l'Évangile, qui sont magnifiques, puisque vous avez souvent un épisode de l'Ancien Testament qui est mis en éclairage avec un épisode de la vie de Jésus, l'épisode de l'Ancien Testament étant la préfiguration de la réalité qu'accomplit notre Seigneur lui-même dans sa vie publique, ou sa vie cachée. Alors à ces moyens, l'Église a ajouté dans le carême le jeûne, l'abstinence et l'aumône. Pourquoi ? Eh bien, pour lutter contre ces fameux foyers de concupiscence dont on a déjà parlé. Avec le jeûne et l'abstinence, on va lutter contre les plaisirs de la chair, en tout cas les désordres de la chair. Avec l'aumône, on va réparer les fautes qui ont été commises finalement contre le prochain et souvent contre le désir des richesses, donc la concupiscence des yeux. Et puis il y a la prière, bien sûr, puisqu'on est dans un temps de prière, hein, je ne l'ai pas rappelé, mais c'est bien sûr cela, qui va réparer les fautes commises contre Dieu, puisque là on s'adresse à Dieu dans la prière. Voilà les moyens, voilà l'école de sainteté, l'école de vie spirituelle du temps de la liturgie dans le temps liturgique. Et puis il y aura ce sommet dans le carême qui est le temps de la Passion, où là c'est la croix, et la croix seule qui nous est montrée, et non seulement elle nous est montrée, mais avez-vous noté ce paradoxe de la liturgie, de la vie de l'Église, elle nous est montrée en étant cachée, puisqu'elle est voilée le premier dimanche de la Passion. Et du coup, on ne voit plus qu'elle. Il y a aussi les statues qui sont voilées. Mais la croix qui est sur l'autel, on ne voit plus qu'elle. On s'est tellement habitué, ce qui n'est pas mauvais signe, à voir des croix partout, que quand elles sont cachées, on dit, tiens, il y avait une croix. Alors, j'exagère un peu, mais sur l'autel, ce serait mauvais goût, mais je parle des autres endroits. Hein. Mais voyant la croix cachée, on se dit, mais pourquoi est cachée d'un voile violet, donc de pénitence, de tristesse, c'est évident. eh bien nous nous rappelons alors la pureté, mais en même temps l'aspect violent de cette croix qui se retrouve comme au centre de notre méditation dans le temps de la Passion et qui culmine dans la Semaine Sainte avec les offices des trois jours saints. Et là encore, je ne détaille pas, mais combien de leçons spirituelles sont données par ces offices que vous connaissez sans doute, jeudi, vendredi, samedi saint, qui sont tellement parlants par eux-mêmes, si on prend la peine de les observer, que les leçons, j'allais dire le commentaire, n'est presque inutile. Il y a des détails qui peuvent être mieux expliqués, mais l'essentiel est dit. Regardez la nuit pascale, cette lumière qui jaillit, notre Seigneur qui est le cierge, etc. Ça mérite d'être commenté, ça mérite d'être étudié au moins une fois, mais après ça parle de soi. L'Église est vraiment maîtresse de vie spirituelle. Et alors, cela aboutit à la résurrection et au cycle pascal. Vie glorieuse, c'est l'image de la vie unitive du ciel et déjà de la grâce ici-bas. N'attendons pas le ciel pour avoir cette vie unitive. C'est une vie unitive qui nous donne le goût. C'est cette résurrection, cette joie de la résurrection pascale, qui est bien sur terre, puisque nous fêtons sur terre ces événements, eh bien, nous donne un avant-goût de la vie céleste, mais elle est déjà réalisée sous un mode moindre dans la vie de la grâce, mais sous un mode réel dans la vie de ressuscité en Jésus-Christ par la grâce de la résurrection, par la grâce de Pâques. Et il faut que dans chacun de ces... Et alors, il y aura l'Ascension, il y aura la Pentecôte, qui vont nous donner les fruits de cette résurrection, et tout ce temps qui va être composé de ce qu'on appelle les dimanches après la Pentecôte, un temps en vert, pour montrer cette vie qui va se répandre, le vert étant le symbole de la vie, de la vie qui croît, qui grandit, qui se répand, eh bien, tout cela nous indique que c'est de cela que nous devons vivre. Cette vie qui est la plus grande partie de l'année, entre, en gros, fin mai, début juin, ça dépend de Pâques, et puis jusqu'en novembre, c'est notre vie de chrétien qui se retrouve là, avec tout cette série de dimanches qui sont très beaux eux aussi, des leçons très précises entre les épîtres et des modèles de l'évangile, que nous finissons par comprendre, par connaître, parce que nous les voyons assez régulièrement, eh bien, toutes ces leçons, nous les voyons comme des rappels de quoi ? De nous dire, demandez à chacun des mystères liturgiques que vous fêtez, que l'Église fête, demandez la grâce qui y correspond. La grâce qui correspond pour votre vie intérieure. Ne soyez pas passive dans le temps liturgique. Ne soyez pas passive dans la liturgie, à votre place uniquement, mais ne soyez pas passive dans le temps liturgique. Ne laissez pas passer l'année comme ça, avec des préoccupations purement matérielles ou profanes. Mais vivez le temps liturgique. Ce sera le véritable prolongement d'une retraite, vous verrez. Et alors nous allons être capables, dans cette année, de suivre alors tous ces mystères de la vie de Jésus, puisque tout s'est résumé à la vie de Jésus, mais aussi à la vie de Notre-Dame, qui participe fondamentalement à cette vie de Jésus, et aussi à la vie des saints, qui sont nos prédécesseurs, qui, eux, ont suivi le chemin auquel nous sommes nous-mêmes invités, et qui nous montrent, par la réalisation magnifique de leur vie, dans la grâce de Dieu, que c'est possible et que nous devons le faire. Voyez, la contemplation de la vie des saints est une source d'espérance. Et c'est pour ça que nous les prions, c'est pour ça que nous les contemplons dans leurs histoires qui nous étonnent, qui nous font envie, qui nous stimulent. Et eux aussi, bien sûr, sont fêtés tous les jours, enfin presque, dans l'année liturgique. Donc ils sont comme autant d'exemples concrets de réussite, si l'on peut parler ainsi, de la vie spirituelle, et trempés, arrosés par les grands mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc dans la vie de l'Église, dans la vie du corps mystique de l'Église. Voilà, je vous invite donc à aller à la chapelle et à bien demander tout cela à notre Seigneur qui sera présent devant vous et auquel vous pourrez donner la plus grande adoration, la plus grande action de grâce de cette retraite.